aujourd'hui la masterclass d'Arthur H avec Julie Gacon.
Bonsoir et bienvenue Arthur H.
Bonsoir.
Bienvenue dans le hall du Centre Pompidou à Paris pour une masterclass. Le principe de cette collection, c'est de savoir comment un artiste construit son œuvre, comment il travaille, quel est le processus d'élaboration de son art, comment à vous, Arthur H., viennent vos mots, comment vous les attrapez au vol, ce qui se passe au bout de vos doigts quand il s'agit de composer, comment vous avez laissé votre voix se libérer au fil de vos albums depuis votre premier en 1990 jusqu'à ce double album « Amour chien fou » sorti au mois de janvier. C'était votre 10e album en studio. Arthur H., vous qui peuplez vos chansons de rencontres imaginaires, je voudrais vous embarquer pour quelques instants dans des paysages verdoyants et vallonnés d'où nous gagnons de vastes landes sablonneuses.
D'accord.
Un paysage où un enfant que vous allez reconnaître s'égare jusqu'à tomber sur une maison qui paraît abandonnée dans la solitude de l'hiver. Et il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regrets. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon et lui, sans rien dire, derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait jusqu'à la nuit. Arthur H., votre maman vous lisait le Grand Maulne le soir quand vous étiez petit.
Ça c'est le Grand Maulne ?
Ouais, wow. C'est le Grand Maulne, wow. Alain Fournier. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu le son d'un piano ?
La première fois que j'ai entendu le son d'un piano, non, je ne m'en rappelle pas.
La première fois que vous avez touché un piano ?
Ça, je m'en rappelle très bien. C'était. Je m'en rappelle de deux fois, en fait. La première fois, c'était en allant chez mon grand-père paternel. Que je ne connaissais très très peu. Je connaissais très très peu cet homme qui avait en plus assez mauvaise réputation. Et je suis allé le voir avec lui et ma grand-mère. On était avec mon frère et mon cousin, tous les trois à l'aventure. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça ne se ferait plus comme ça d'envoyer les enfants un peu comme ça tout seul à l'aventure. À l'époque, ça se faisait encore. On pouvait partir dans la nature, aller dans des endroits un peu dangereux ou un peu lointain, et les parents laissaient faire. Il n'y avait pas encore cette obsession de la sécurité.
Enfin, comme bref.
Ouais. Donc j'arrive chez mon grand-père et qui était déjà très malade d'Alzheimer, en fait. Mais je ne le savais pas. Déjà à l'époque, je devais avoir 13, 14 ans. Évidemment, j'ignorais ce qu'était Alzheimer. Et il habitait une petite maison assez quelconque. Et il était complètement au ralenti, quoi. Il était gravement au ralenti. C'est-à-dire, il était vraiment. Je pense qu'il est mort pas très longtemps après d'Alzheimer assez poussé. Et là, il y a eu quand même une sorte de transmission, parce que lui-même avait été pianiste, de valse viennoise, de valse alsacienne. Il était dans un café qui appartenait à la famille en Alsace, dans la banlieue de Mulhouse. Il jouait des chansons, comme ça. Je pense qu'il a dû beaucoup jouer du piano à mon père. Il y avait ces valses viennoises, voilà. Et puis moi, j'ai commencé à poser là mes mains sur le piano. Et j'ai senti tout de suite vraiment quelque chose de l'ordre du frisson, quoi. Du frisson, de la reconnaissance, de je sais pas, une espèce d'amour fou ou de connivence, de connexion avec cet instrument. Quelque chose qui se discute pas, qui nous habite, qu'on comprend pas, mais qu'on n'a pas envie de comprendre non plus, quoi. Le fait de caresser cet instrument, de sortir des sons tout de suite, de tout de suite avoir un rapport ludique. La musique, c'est quelque chose de très ludique, c'est jouer, quoi. C'est des mélodies qui arrivent comme ça, donc on cherche, on trouve, et voilà. C'est chez mon grand-père, donc il y a vraiment un truc de transmission quand même assez marqué dans cette histoire.
Et alors, vous vous êtes mis à en jouer régulièrement, et c'était une évidence, et c'était une voix, peut-être, VOX, pour vous ?
Oui, oui, oui. Ensuite, le temps a passé un petit peu. Enfin, j'ai une guitare électrique dans les mains un petit peu, mais j'ai dû me faire opérer du genou. Et, Et quand je suis rentré à la maison, après quelques jours à l'hôpital, j'ai eu la surprise de découvrir un petit piano d'étude qu'avait acheté ma mère, très 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 simple, que j'ai toujours, incroyablement, je sais pas comment les objets nous suivent comme ça dans la vie, mais lui il m'a suivi. Et il est à côté de mon lit, là, ce piano sur lequel j'ai commencé à jouer. Et là, ouais, bon, voilà, on peut vraiment appeler ça une histoire d'amour, hein, avec un objet. Alors, je sais pas si c'est en zoophile, c'est avec les animaux, mais avec les objets, je sais pas comment ça s'appelle.
Pianophile.
Pianophile. Ouais.
Est-ce que vous parlez de transmission de la part de votre grand-père? On pense.
Il m'a rien dit. Hein. C'était vraiment. Il m'a pas appris un morceau. Il m'a pas dit tiens viens, je vais t'apprendre un truc. Tu vois. C'était vraiment génétique, quoi. Je sais pas.
Génétique. Évidemment, on pense à votre père, bah oui. Jacques Higelin.
Ouais, ouais.
Votre mère faisait du piano. Nicole Courtois, qui a longtemps été l'attachée de presse du Printemps de Bourges, qui a accompagné un âge d'or de la chanson française. Elle vous a aussi bercé de musique.
Ma mère est issue d'une famille très très populaire où on faisait pas de piano, bien sûr. D'ailleurs, mon père aussi, mais simplement c'est qu'ils avaient un café en fait. Cette branche de la famille-là avait un café et à l'époque le piano c'était le jukebox. Donc les tu mettais pas une pièce dans le truc, il y avait un mec qui jouait pour de vrai des chansons quoi. Donc c'est pour ça qu'ils avaient une tradition familiale qui était aussi également populaire. Mais par contre dans la famille de ma mère, non pas du tout. Alors vraiment aucune. Aucune musique, mais ma mère était quand même un peu une chanteuse frustrée. Elle chantait beaucoup à la maison. À une époque, ma mère avait acheté un petit orgue de Barbarie avec qui elle aurait voulu s'accompagner comme ça dans la rue. Elle chantait des vieilles chansons françaises. Elle connaît beaucoup, beaucoup de chansons par cœur. Donc elle m'a pas joué de piano, mais elle a effectivement énormément chanté.
Et quand vous mettiez votre pièce dans le jukebox de votre grand-père, ou en tout cas plus tard, ado, vous écoutiez quoi, vous, vos goûts à vous, Arthur H?
Mon grand-père, je l'ai très très peu rencontré. Après, j'ai eu une très très belle histoire avec ma grand-mère, mais mon grand-père, je ne l'ai quasiment pas connu. Quand j'étais ado, c'était les Beatles. Beaucoup. Je pense que j'ai commencé à écouter les Beatles dans le ventre de ma mère. C'était des Beatles intra-utérin. Je suis né l'année de Sgt Pepper, Lonely Heart Club Band. Je sais que mes parents ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir et d'émerveillement à découvrir toute cette créativité débordante des Beatles, quoi. Et les Beatles, c'est assez fantastique parce que, voilà, mes parents, quand ils étaient jeunes, ont été inspirés par les Beatles. Moi-même, j'étais inspiré par les Beatles. Mes enfants ont été inspirés par les Beatles. C'est vraiment quelque chose de constant, de très solide. Cette créativité magnifique qu'il y a eu, en fait, pendant 4 ou 5 ans, où ils ont vraiment créé quelque chose d'extraordinaire. Dans le ventre de ma mère, je pense que j'ai écouté ça. Je pense que les impressions intra-utérines sont très, très importantes. Déterminante. Et à l'âge de 10 ans, j'ai une passion pour les Beatles, voilà, où j'étalais les vinyles devant moi.
Alors, je crois qu'à l'école, ça marchait pas fort. Enfin, c'était pas très école, quoi. À 15 ans, vous quittez le lycée pour partir étudier le jazz à Boston. Dans quel type d'école? On pense à ces écoles type celle décrite dans le film Whiplash de Damien Chazelle, où la concurrence est très rude, où les professeurs sont très durs. Ça ressemblait à ça?
Non, je pense pas. Non, c'est vrai que le lycée, oui, j'étais devenu très très mauvais, très inadéquat, très en dehors du truc. Donc bon, après, voilà, j'ai arrêté le lycée au milieu de la seconde. Je suis parti de mon propre chef. Et après, il fallait bien que je fasse quelque chose quand même, parce que c'est vrai que n'étant doué à peu près pour rien. À part vaguement pour la musique, et il fallait bien que je m'occupe. Et donc ma mère a demandé à ses amis qui étaient dans le jazz une école, et puis c'était Berklee School of Music à Boston. Donc on a fait un dossier qui a été pris, et je suis parti là-bas, ouais, à 16 ans.
Et d'où vos premières influences jazz peut-être ?
Non, pas du tout, non. Parce qu'en fait, à l'époque, malheureusement, je ne mets pas du tout vraiment le jazz. En plus, le jazz scolaire de l'école, je trouvais très, très bavard, très froid, pas du tout intéressant. Pas du tout émotionnel, quoi. C'est longtemps après que j'ai découvert le jazz vraiment comme une musique absolument fantastique, d'une richesse inouïe, humaine, musicale, esthétique, subversive. Ça, c'est vraiment longtemps après, en fait. Donc j'étais dans cette école, totalement perdu, parce que j'étais quand même un peu autiste, déjà. Par contre, je dois avouer que pour un jeune homme comme ça, une jeune femme, se retrouver tout seul à 16 ans, loin de sa famille, loin de ses amis, loin de son pays, loin de sa langue, je comprenais rien quand les gens parlaient. C'était une expérience vraiment extraordinaire, ouais. D'altérité, d'être perdu. C'est génial d'être perdu. J'étais complètement perdu. Et ça m'a permis de déjà redécouvrir la culture française, complètement. Le surréalisme, notamment, parce que moi, j'écoutais du punk et de la cold wave et tout ça, mais je n'arrivais pas à faire le lien entre ce que j'aimais et la culture française. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que ce que j'aimais existait aussi dans la culture française, qui était vraiment une belle découverte pour moi. Et puis des très beaux concerts, comme par exemple... je viens d'oublier son nom. Laurie Anderson, qui commençait à l'époque.
Quand est-ce que vous vous dites, allez, cette fois-ci, je me lance, moi, Arthur H, et surtout, est-ce que vous arrivez peut-être à dire à votre père, Jacques Higelin, que vous voulez trouver votre propre voix ? Est-ce qu'il y a passage de témoin ?
Alors ça, c'est arrivé déjà dans une expérience psychédélique qu'on a fait ensemble lors de cette fameuse fugue. Enfin, avant que je fasse une fugue, donc.
Une fugue ?
Oui, j'ai fait une fugue. C'est pour ça que j'ai arrêté le lycée. Donc, on était chez Coluche, en Guadeloupe. Voilà, il avait une grande maison en Guadeloupe. À l'époque, Coluche prenait énormément de drogue. Mais bon, il y avait quand même des champignons hallucinogènes qui poussaient sous les bousses de vache. Et puis, un jour, mon père m'en a donné. Il m'a donné une omelette aux champignons. Après, il s'en rappelait plus vraiment. Enfin, j'en ai reparlé avec lui, mais bon, bref. Donc, tout le monde ricanait autour. Et puis, évidemment, moi qui n'avais jamais bu d'alcool, jamais fumé quoi que ce soit, jamais rien pris, c'était quand même assez puissant. Donc, j'ai eu la chance de faire cette expérience-là avec mon père. Et on est parti à un moment dans le jardin, parce que des gens arrivaient, il y avait du bruit. Et puis, bon, voilà, c'était des termes de sensations très, très puissants, très déstabilisants aussi. Puis, je l'ai suivi. J'étais pieds nus, malheureusement. Donc ça, il y avait des trucs qui me piquaient, tout ça, enfin des épines, mais en même temps je voyais tous les dans la maison de Coluche, il y avait un énorme jardin qui évidemment était un jardin tropical, donc une forme de jungle en fait. C'était très sombre et je marchais derrière mon père en ayant quand même des hallucinations assez sérieuses. Et à un moment j'ai tout vu symboliquement, je marchais derrière lui et je lui dis arrête. Il s'est retourné. Et il me dit quoi ? Il me dit, écoute, si je marche toujours derrière toi, je n'arriverai jamais à trouver ma voie. Je serai pas moi-même. Je lui dis ça, je ne me rappelle plus les mots que j'utilisais, mais le sens était précis, quoi. Donc il m'a regardé, puis mon père a toujours respecté, en fait, cette individualité ou ce truc-là. Et il m'a dit, ok, et il est parti. Donc là, ce qui était peut-être pas, moi, j'aurais peut-être pas fait ça si j'avais fait ça avec mon fils, parce que c'était quand même la première fois que je prenais des trucs hallucinogènes. Et j'aurais pu vraiment avoir une crise de panique, par exemple. J'en étais pas loin, franchement.
Un bad trip.
Ouais. Mais voilà, il y avait quand même, pour moi, une forme de courage et d'abandon. Comme ça, de s'abandonner à la vie et d'accepter ce qui arrivait, et puis d'accepter d'être seul aussi. Et je dois dire que j'ai mis beaucoup de temps à retrouver mon chemin, parce que j'étais vraiment perdu, en fait. Ce parc était immense. En plus, j'étais complètement sous hallucination. J'avais mal aux pieds, mais j'étais content aussi, quelque part, de vivre cette expérience, d'être livré à moi-même, quoi. Donc pour moi, peut-être dans mon subconscient a peut-être dit, bah tu as le droit d'être toi-même, tu n'es pas obligé d'être derrière ton père, quoi, voilà. Donc je me suis retrouvé seul en fait quand même, sans aide, mais moi-même. Et le lendemain, pour moi, c'était une expérience tellement forte que je pouvais vraiment pas imaginer retourner à la normalité, retourner au lycée, tout ça pour moi c'était fini, quoi. C'était un voyage initiatique qui a été la première pierre, voilà, d'un parcours, quoi.
Arthur Hache, vous nous racontiez les sensations que vous avez eues la première fois que vous avez touché un piano et la première fois que vous avez chanté, en tout cas quand vous avez commencé à chanter, vous entendiez quoi?
Alors je pense la preuve vivante que tout le monde peut chanter, parce que je chantais quand même très très mal. Mais j'étais amoureux de la voix de Jim Morrison, qui, lui, chantait très très bien. Donc Jim Morrison, comme tout le monde le sait, c'est un grand chanteur des Doors des années 60, psychédélique, fou, chaotique, mais aussi amoureux de Frank Sinatra, quoi, de ce genre de style de voix de crooner qui est une voix extrêmement relaxe, très américaine, sans effort. Et bon, Jim Morrison avait ça, quoi. Et moi, en écoutant Jim Morrison, je me projetais dans lui, dans cet amour de la poésie, de l'ivresse, de la transe, des mots, du mystère, tout ça. Et je me suis identifié à lui, comme, c'est pas très original, comme des millions de jeunes gens. Et du coup, j'ai projeté dans le futur, très très loin, ce type de voix, quoi. Donc moi, j'étais plutôt dans le registre du croassement. Mais je savais qu'à l'intérieur, il y avait cette voix pure qui un jour pourrait émerger, quoi. C'est une étoile. C'est vrai que je pense pas qu'on puisse réaliser quelque chose dans la vie, quoi que ce soit, si on projette pas une étoile très loin et qui nous appelle, qui nous attire, qui nous guide. Et voilà, moi, c'était une étoile qui m'a permis de supporter ma voix pendant longtemps, parce qu'elle était justement collée à une voix imaginaire.
On parle moins de Jim Morrison que de Tom Waits quand on vous écoute. Comment vous avez-vous réussi? C'est un travail, ça, de libérer sa voix?
Bah, en fait, c'est pas un travail, c'est la vie. On considère que la vie, c'est un travail. Moi, je considère que la vie, c'est un travail, un petit peu, parce que c'est un travail sur ses émotions, sur sa conscience, sur son corps. Et c'est ça le vrai travail, quoi qu'on fasse comme activité, finalement on travaille que là-dessus, on travaille sur son être. Et alors il y a des gens qui ont la chance d'avoir un métier qui leur permet de directement travailler sur leur être. Et puis des fois il y a des métiers un peu plus périphériques, quoi, un peu plus loin de soi, où on est obligé de travailler à côté. Mais finalement la vie travaille tout le temps, elle travaille 24 heures sur 24, y compris dans les rêves. Et voilà, donc mon travail à moi, c'était de m'assouplir, de me libérer, de lâcher prise, de me détendre, de faire confiance, d'ouvrir. Et en tout cas, s'il y a un travail de chanteur, c'est celui-là. C'est ouvrir son corps, ses cellules, sa chair, son cœur, pour qu'à un moment, la voix circule complètement, quoi. Qu'elle n'ait plus de résistance dans le corps.
Brigitte Fontaine parle de votre voix comme celle d'un vieux matou de gouttière qui a couché dehors par tous les temps et s'est bagarré avec le monde entier. Vous la définissez comment, votre voix?
Je ne sais pas, je veux absolument pas la définir. Je veux au contraire la laisser tranquille, la laisser vivre sa vie. Et... Oui, alors non, je ne vais pas lui donner de nom. Ça serait ce serait pas la laisser tranquille, et j'ai envie de la laisser tranquille.
Dans vos chansons, votre voix est toujours au-dessus de la musique, elle n'est jamais noyée dans la musique. C'est un choix esthétique, l'importance du texte, chaque mot est pesé, chaque mot compte, mot existe.
Je trouve que les mots, c'est de la musique. Quand on parle, là, c'est de la musique aussi, il y a un brouhaha autour, c'est de la musique que j'écoute aussi. Tout a des ondes, des fréquences. Après, c'est vrai que dans la chanson en particulier, j'aime évidemment la musique des mots, donc c'est vrai que je trouve que comme chaque mot a sa propre splendeur, sa propre lumière, sa personnalité, son aura, son mystère, donc c'est vrai que j'ai envie de respecter chaque mot. Après, il y a d'autres musiques où c'est moins important, où t'es plus dans un flux, tout ça, où c'est dans la musique, c'est bien aussi, mais ça, c'est pas ma recherche.
Est-ce que c'est Barbara qui vous a appris ça, Barbara qui ne recherchait pas la prouesse vocale, mais ce qui lui importait, c'était la musique et que la mélodie accompagne le sens de chaque mot. C'est un peu ce qui vous caractérise, et je crois que Barbara, c'était une des bonnes fées qui s'est penchée sur votre berceau.
Oui, quand j'étais petit, mais c'était à cause de ma mère qui était amie avec elle, et puis surtout mon père aussi. Donc du coup, je l'ai fréquentée, elle m'a vu enfant, comme Brigitte. C'est vrai que Brigitte, j'ai la chance d'avoir deux, Brigitte Fontaine et Barbara, ouais, elles m'ont un peu... Mais malheureusement, elles ne m'ont pas transmis leur génie. Mais... Après, Barbara, c'était une grande mélodiste. Bon, c'est vrai que la chanson n'est pas un art très... comment dire, c'est un art qui est très aimé, mais qui n'est pas très considéré. Parce que voilà, il y a beaucoup de saltimbanques, il y a la variété, il y a plein de trucs différents. Peu importe, c'est un art populaire aussi. Mais quand même, je trouve que Barbara, musicalement... Ça va vraiment loin en termes juste de musique, quoi. Bon, c'est vrai qu'elle vient du monde classique aussi, donc elle avait accès à la sophistication du monde classique. Mais dans son phrasé, dans l'art de mettre les mots et les mélodies, c'est quand même vraiment d'un haut niveau musical qui est aussi haut que le jazz ou que la musique classique ou des trucs comme ça, quoi.
Arthur H., le processus créatif, comme on dit, la manière dont les mots vous viennent, dont la musique vous vient, est-ce que c'est quelque chose de difficile, de laborieux en tout cas?
Ben non, heureusement que non, c'est ni difficile ni laborieux, c'est tout le contraire d'ailleurs.
Ça vous fait rire, mais c'est assez rare en fait qu'on entend un artiste dire que le processus créatif est facile.
Oui, c'est le reste qui n'est pas facile, mais le processus créatif, c'est un moment extrêmement agréable où on est en contact direct avec l'énergie de la création, donc il n'y a pas trop de problèmes. Hein. À partir du moment où on s'ouvre, où on a confiance, on est joyeux, on élève son niveau d'énergie, son niveau de conscience, comme ça, naturellement, on est tout de suite en contact avec le monde créatif, le monde de l'invention, et il n'y a qu'à se servir, quoi. Tout est là, tout est à portée de main. La difficulté, elle est plus après dans la réalisation. C'est-à-dire que être en contact avec ses rêves, c'est quand même relativement facile. Ça demande pas beaucoup de science. Enfin, si ce n'est la science de l'abandon. Mais ensuite, pour réaliser ses rêves dans la matière, là, c'est plus douloureux, quoi, effectivement. Et ça peut être très laborieux. Parce que il y a, dans notre monde, dans notre société, il y a une énorme distance justement entre le monde de l'utopie, de la sensation, de la vision, de voir les choses. Tout ça, c'est des énergies très subtiles, très vives, très rapides, très colorées, très vivantes. Et puis après, il y a le monde de l'inertie, de la matière, de la société, des idées. Tout ça ralentit énormément. Tout ça nous alourdit considérablement, donc c'est sûr que à un moment quand une idée puissante vive descend dans la matière, elle se prend un gros choc dans la gueule, quoi, vraiment sérieusement. D'ailleurs, on voit toutes les grandes idées en général, sans parler de mes petites chansons, mais les grandes idées quand elles arrivent sur Terre, en général, pendant longtemps, c'est de l'indifférence, c'est de l'incompréhension, et puis c'est que après un long travail de temps, de travail de sape. Travail de mine que l'idée peut surgir, être reconnue, être appréciée, mais le choc est toujours entre le mec qui a une idée géniale ou une femme qui a une vision, qui tout ça, et puis la transcription dans la matière, là il y a effectivement du boulot. Ouais.
L'idée qui descend du ciel et vous qui allez les chercher dans vos rêves, dans votre imagination, dans vos voyages, comment elle naît l'idée?
Bah, comment elle naît l'idée? Si on ne sait pas comment elle naît, on n'a pas la moindre idée. Justement. On n'a pas d'idée sur les idées. Et c'est ça qui est magnifique. On n'en sait rien. Les idées, on peut que constater que les idées nous traversent. Une idée nous traverse, elle apparaît devant nous, c'est tout. Alors, si on considère qu'on a un récepteur, on a des récepteurs de plus ou moins bonne qualité, qui va recevoir des idées de plus ou moins bonne qualité. C'est sûr que quelqu'un qui ressasse tout le temps, qui se nourrit très très mal, qui a des pensées très négatives, ben voilà, il a peu de chances d'avoir l'idée, l'illumination du siècle. Et quelqu'un qui a une certaine forme d'optimisme, d'énergie, même purement intérieure, tout ça, et oui, il va être en contact avec... C'est un grand mystère dont on parle pas beaucoup, mais qui serait vraiment très intéressant de développer, et ce serait très intéressant qu'on en parle plus. Comment les inventeurs, les scientifiques, les artistes, tout ce genre d'êtres qui vivent dans l'imaginaire ont accès au monde des idées. C'est un truc humain, hein, tout le monde là, en vrai... C'est peut-être parce que eux, ils se posent pas de questions et ils ont confiance dans leur propre capacité intérieure. Je pense qu'ils ont une foi quasi absolue dans leur propre capacité intérieure à être en contact avec les idées. Donc les idées sont là. Je pense que c'est vraiment aussi simple que ça, quoi. C'est pas très compliqué, je crois.
Est-ce qu'il faut avoir la tête vide ou au contraire l'avoir beaucoup remplie avant pour que l'idée émerge? Comment vous faites, vous? Vous allez prendre l'air? Vous laissez le rêve venir?
Les deux, c'est paradoxal. Effectivement, faut avoir la tête vide. C'est bien d'être un bon idiot, quoi. Un bon idiot qui sait rien. Parce que si effectivement, si on sait trop de choses, on n'a pas forcément accès au nouveau, à l'inconnu, au surprenant. Et puis la tête bien pleine, bah aussi, parce que voilà, les neurones, c'est aussi des chemins, des voyages, donc faut aussi que ces connexions existent pour que l'idée, l'inspiration puisse se déposer, puisse circuler. Je crois qu'il faut se remplir et se vider comme une baignoire ou comme un lavabo.
Vous parliez des lieux, des voyages, le lieu a de l'importance, que ce soit alors les nombreux voyages que vous avez faits en Haïti, dans les Caraïbes notamment, beaucoup d'autres, mais aussi ceux que vous investissez pour des répétitions. Je crois que votre dernier album, Amour Chien Fou, vous l'avez répété dans une salle vide et que ça a peut-être eu un impact, je ne sais pas, sur votre manière de créer.
Bah oui, la musique est l'art de l'espace. C'est comment habiter un espace, comment faire circuler une énergie dans l'espace. Donc c'est vrai que selon les espaces, on va faire des musiques un peu différentes quand même. La musique va s'envoler, va décoller, va circuler de manière différente. Après, moi, dans ma vision des choses, tout est intérieur. Tout est à l'intérieur. Donc si on a la vision d'un grand espace à l'intérieur, on aura beau être dans un petit endroit, on va quand même... faire une musique qui sera large, quoi. Et à contrario, si on joue tout petit, on aura beau être dans un endroit immense, on aura toujours une musique petite. Donc c'est quand même l'intérieur qui prime, c'est l'intérieur, y compris dans les voyages. Parce qu'on a beau aller au bout du monde, si par exemple on est très en colère contre quelqu'un, mettons, on va aller au bout du monde, on sera toujours à ruminer contre cette personne. Pourtant on sera devant un désert, ou devant le Mont Blanc, ou je sais pas quoi, où on sera dans une barque sur le Mékong et on va toujours penser à cette personne, donc on s'emmène avec soi, quoi. Donc pour moi, l'intérêt du voyage, c'est surtout de s'abandonner, de perdre ses repères, de plus avoir d'automatisme. Enfin, en tout cas, que l'automatisme, il est toujours là, parce qu'il est très puissant, mais il soit un peu ébréché, quoi. Il soit un peu en branle et perde un peu son assise, et pour qu'on puisse éventuellement à un moment avoir un regard un peu neuf. C'est toujours un regard sur soi, hein, parce qu'on a beau voir les gens vivre différemment au bout du monde, ça reste un tableau extérieur. C'est pas notre vie. Moi, je suis très curieux, évidemment, je suis très observateur et tout ça, j'aime bien observer tout, mais à un moment, ça va... Je vais revenir forcément à mes perceptions, à ce que je suis capable de voir. c'est ce que selon mes centres d'intérêt. Et là, ça m'a vraiment frappé qu'on était à Bali avec Léonore, parce que nous, on était venus écouter, voir des cérémonies, de la musique. Je trouve que la musique balinaise, indonésienne est folle, quoi. Elle est une folle beauté. Donc, j'étais plein de ça. J'étais prêt à voir ça. J'étais déjà à l'avance ému par ce que j'allais peut-être découvrir, quoi. Et à contrario, j'ai vu pas mal de touristes occidentaux passer devant des cérémonies ou des processions et n'y accorder absolument aucune importance. Vraiment, et même pas regarder, quoi. Et ça m'a stupéfié, parce que je me suis dit, putain, on est à l'autre bout du monde, on voit une culture qui est quand même assez merveilleuse, quoi. Vraiment, c'est des gongs, c'est des parures, c'est des masques, c'est des trucs un peu dingues. Et il n'y a même pas cette stupéfaction de trucs, même pas ça. C'est-à-dire qu'il y a juste une indifférence. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ils sont indifférents parce qu'ils ne voient tout simplement pas. Ils ne voient, parce que s'ils voyaient, ils s'arrêteraient, ils seraient comme moi. Moi, je l'ai vu, je ne peux que m'arrêter, quoi. Je ne peux pas faire autrement. Si je vois un truc merveilleux, je suis là, je m'arrête. Mais en même temps, si je passe devant et que je ne vois pas le truc merveilleux, ben non, je ne m'arrête pas. Et ça m'a frappé, en fait. Je me suis dit, waouh, on peut aller à l'autre bout du monde et transporter son regard et ne rien voir, c'est possible. Bah, et la preuve, je l'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises. Puisque les gens, ils vont voir, ils sont en groupe, ils vont dans des hôtels un peu de luxe, ils vont dans des restaurants, ils vont à la plage, et puis le reste, ils ne le voient pas, à part s'ils vont voir un spectacle touristique sur le folklore, où là, ils vont regarder comme, parce qu'ils ont payé leur place, un spectacle, mais voilà, donc ça montre bien que je trouve que le voyage est vraiment une attitude intérieure, quoi, de disponibilité, donc il n'est pas, pour moi, il est enthousiasmant, c'est vrai, mais il est pas nécessaire. On peut rester dans sa chambre et puis avoir ses propres visions, juste en lisant un livre ou en imaginant. J'aurais pu imaginer Bali aussi.
Ensuite, il faut laisser sa plume divaguer. Il faut laisser ses mains courir sur le piano. Vous êtes plutôt dans l'écriture, une écriture spontanée quand vous écrivez une chanson?
Bah, c'est toujours spontané, parce que le premier jet, en tout cas, est spontané. Après, on travaille un peu la forme. Mais c'est une espèce de plaisir à se laisser embarquer, en fait. On s'embarque dans une mélodie, dans un rythme. Et puis, il y a un phénomène de l'auto-hypnose, en fait. On s'hypnotise soi-même. L'hypnose, c'est aussi quelque chose dont on parle pas beaucoup. Donc, il est prépondérant partout, tout le temps. Les gens qui regardent la télé, ils sont hypnotisés, ils sont dans une hypnose. Quand on va au cinéma, on est dans une hypnose. Si on marche, on voit des lumières, on est dans une hypnose. Et si on est comme perdu dans ses pensées, on est dans une hypnose. C'est un état capital, je dirais. Et alors, quand on écrit des chansons, en tout cas comme moi, bah oui, je m'hypnotise moi-même en répétant plusieurs fois les mots, les mélodies. À un moment, je suis complètement barré. Je suis en transe, le monde extérieur n'existe plus, et puis je suis que dans la joie du rapport avec cette nouveauté là, qui apparaît devant mes yeux, qui je donne une forme. Ça devient une habitude en plus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très simple et marrant.
Vous avez publié un recueil de textes poétiques en 2015, Le cauchemar merveilleux, qui donne, c'est vrai, cette impression d'avoir été écrit dans le même état que Burroughs pour le festin nu. Le son a creusé sa propre grotte dans la colline de ma poitrine. Les vibrations sont des chauves-souris qui dansent dans l'architecture, d'un thorax ouvert. Est-ce qu'on peut encore transformer la façon d'écrire après Gainsbourg?
Ah oui, bien sûr. C'est vrai que Gainsbourg a apporté beaucoup de modernité avec son sens du rythme et son sens de l'anglais aussi, son phrasé anglais qui tenait lui-même du jazz, qu'il a mis dans la langue française. Son influence aussi de la musique noire, du côté très rythmique de la langue, ça a irrigué plusieurs chanteurs, dont le premier c'était Charles Trenet, bien sûr. Voilà, qui a écrit d'une façon swing, en faisant vraiment swinguer les mots. Charles Trenet a influencé absolument tout le monde. Et puis après, Gainsbourg, il a porté sa modernité et surtout sa sensualité. Parce que c'est vrai que Charles Trenet, c'est une sensualité comme ça, assez bonhomme, quoi, assez... assez années 30, quoi, assez années 40. Et puis Gainsbourg, il a apporté quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, plus vénéneux, plus baudelairien aussi. plus sexuel aussi, plus sexuel. C'est des bonnes influences, c'est des nourritures magnifiques, mais qu'on a digéré. Alors maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir autant d'inventivité dans la langue française? Je sais pas. Moi, j'ai la mienne propre, mais qui est pas révolutionnaire non plus. J'ai mon propre souffle, mon propre rythme. Est-ce que quelqu'un va arriver avec quelque chose de révolutionnaire dans la langue? J'ai un peu de doute là-dessus. Je trouve que la langue, c'est quand même beaucoup appauvrie, quoi. Elle est plus plate, elle vibre moins, donc il faudrait peut-être la renourrir, donner la transfusion de vie. Bon, il y a Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine, c'est une écriture importante, mais Brigitte Fontaine, c'est la même génération que Gainsbourg.
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des moments de panne, de vous sentir vide ?
J'ai pas de moments de panne parce que quand j'ai pas une commande ou un disque à écrire ou un truc à écrire, tout simplement je le fais pas. Donc je me sens pas en panne, je me sens vivant. Et par contre, quand j'ai un projet particulier que je dois écrire, bon là par exemple j'ai décidé de faire un double album, donc de faire à peu près une vingtaine de chansons. J'ai écrit une vingtaine de chansons, quoi. Voilà, c'était aussi simple que ça. Mais après, j'étais en panne. Une fois que j'ai fini, j'ai pas continué à écrire 20 nouvelles chansons parce que j'ai pas besoin de les écrire.
Comment est-ce que vous savez quand votre œuvre est achevée, que votre texte est fini, qu'il n'y a plus à y revenir?
C'est une sensation comme ça de plénitude. Et puis là, c'est vrai que avant, il y a de nombreux disques où j'écris sur des cahiers, et parce que j'aimais bien écrire, j'aimais bien les ratures, j'aimais bien voilà avoir une feuille qui noircit, plein de petits trucs. Mais en fait, en vrai, ça me limitait un petit peu parce que j'étais moins exigeant parce qu'au bout d'un moment. Le truc était noir, je le réécrivais peut-être une première fois, mais peut-être pas une deuxième fois ni une troisième fois, quoi. Pour que ça soit quand même à la fin beau, propre et lisible. Du coup, je me suis mis à l'ordi, à deux, trois disques, et à l'ordi, écrire à l'ordinateur quasiment directement, ou recopier tout de suite, ça me permet vraiment de retravailler les textes beaucoup plus longtemps, quoi. De les améliorer. Donc le premier jet bouge pas trop, mais un mot, une phrase, un truc, ça peut durer un peu longtemps, mais c'est des détails.
On n'a pas parlé de votre rapport à la scène, Arthur H., lors de vos concerts. Quel est votre rapport à votre public? Et d'abord, est-ce que ça veut dire quelque chose, votre public? Est-ce que vous avez votre public?
Le mien, personnellement.
Ouais.
À qui j'interdis d'aller voir les autres chanteurs. C'est mon public.
Mais c'est vrai qu'on entend dire ça, mon public, ouais. Je chante pour mon public.
Mon public, voilà. Ouais. Ça serait bien, mais non, malheureusement, non, c'est pas mon public, c'est un public. Et le public, c'est les gens, c'est des gens qui me font l'amitié de venir m'écouter, de partager ces moments. Donc le public, c'est plein de gens différents, donc c'est des inconnus déjà en général. Il y a un peu de gens connus dans le public, mais très peu. Enfin, des gens que je connais, pas des gens connus, mais ça, il n'y en a pas trop non plus, mais des gens que je connais moi, sinon le reste, c'est des gens qu'on ne connaît pas, et c'est ça qui est beau. Parce que c'est vrai que des fois, il y a un truc un peu comme faire l'amour, avec, on échange des vibrations, des rythmes, une certaine forme d'intimité avec justement des gens complètement inconnus. L'espace d'un moment, on partage une vraie intimité, quoi. C'est très curieux, mais. C'est un beau moment, je trouve. C'est un moment mystérieux que j'explique pas trop, mais qui m'est familier maintenant. Je suis très familier de cette étrangeté d'être sur une scène, une toute petite scène, une grande scène, et puis d'avoir un rapport, de m'abandonner aux gens, de les emmener dans un voyage, tout ça.
Qu'est-ce que vous voulez leur donner? Parce que vos chansons ne sont jamais tristes. Vous n'êtes jamais dans une sorte de complaisance, de la mélancolie. Oui, il y a une gaieté dans vos chansons ouais, et dans, bah votre ouais, chanson, ouais. dans votre manière de les donner. Qu'est-ce que vous voulez leur donner?
Bah, je voudrais partager un désir de beauté, déjà, d'être connecté à un moment ensemble, de respirer ensemble sur une idée de la beauté, une idée de la légèreté, de l'émotion. Donc c'est pas vraiment leur donner quelque chose que moi je veux vous donner quelque chose, c'est qu'à un moment, moi je vais être sur scène et je veux créer à un moment un contexte où il va se passer des choses. Plutôt ça, comme ça que je le vois moi.
Mais vous en voulez un peu à ceux qui, un peu trop gratuitement, peut-être s'épanchent sur leur mélancolie, sur leur tristesse, des chanteurs qui communiquent.
Ah non, j'en veux à personne, chacun son truc.
C'est pas vous.
De toute façon, il y a un public justement pour tout. Parce que le type qui va épancher sa tristesse ou un truc ou quelque chose de pathétique, il va rencontrer des gens qui ont besoin d'entendre ça. Alors moi c'est pas mon cas personnellement, mais des gens vont, ça va les faire vibrer et ou ça va leur faire du bien parce qu'ils ont une tristesse en eux et ça va être quelque chose de cataleptique, de tout d'un coup de se reconnaître dans cette tristesse ou d'avoir quelqu'un qui dit la chose à votre place. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des choses qui parfois nous-mêmes, selon nos goûts, on trouve invraisemblables ou nuls ou inintéressants. Et puis on se dit mais pourquoi ils aiment ça? Parce que ça leur correspond tout simplement et ça correspond pas du tout à nous ce qu'on est quoi. Donc ça apprend déjà la tolérance. Ce qui est pas évident, c'est pas évident la tolérance parce qu'on a tout de suite tendance à juger, à dire ça c'est pas bien ou ça c'est pas intéressant. Moi je peux pas m'empêcher de juger beaucoup. Mais voilà, je constate que j'attire peut-être les gens, moi, qui ont envie de plus de rêves ou plus de partager un moment comme ça, très, très vivant, quoi, où on s'efface tous et tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît au milieu, qui est peut-être enthousiasmant, peut-être, dans le meilleur des cas.
Vous avez des rituels avant d'entrer en scène ?
Oui, j'ai des rituels, oui, bien sûr.
C'est secret ?
Ah bah oui, les rituels doivent rester secrets, bien sûr, parce qu'on peut pas... Déjà, ça aurait pas trop de sens de les dire, parce que c'est vraiment des trucs hyper personnels, mais...
Vous écrivez un peu ?
À une époque, oui, je faisais ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais à une époque, effectivement, juste avant de scène, parce que, en fait, ce qui est beau dans la scène, qu'on est sur la scène, en tout cas, c'est que tout d'un coup, juste avant de rentrer sur une scène, on est plein d'énergie, quoi. On est vraiment au meilleur de soi-même. C'est-à-dire que toute la fatigue de la journée, les problèmes, ils s'effacent complètement. Et tout d'un coup, on est rayonnant, quoi. Moi, je me dis, putain, mais pourquoi je suis pas tout le temps comme ça, quoi? Pourquoi je suis pas toujours dans cet état de une forme de plénitude que je ressens juste avant d'entrer sur scène? Du coup, à un moment, effectivement, j'en profitais pour écrire un petit poème, un petit texte, parce que j'étais inspiré. Simplement, justement, comme je montais mon niveau d'énergie était quand même considérablement augmenté par le fait d'arriver devant les gens, tout ça. Et ben, j'en profitais pour écrire, ouais.
Le rapport avec vos musiciens aussi sur scène est important. Des vieux compagnons de route pour certains.
Bah, le rapport avec les musiciens, il est assez indicible. On est connecté d'une façon très très physique et très spirituelle en même temps. Quoi. C'est on n'a même pas besoin de se regarder. On se sent. Quoi. On se ressent et on se lie les uns aux autres de manière très forte par la magie de la musique, par une façon de se détendre, par des regards. C'est vraiment un sentiment qui n'a absolument rien de mental, d'intellectuel. C'est du pur sensitif. C'est au-delà de tout. On peut pas vraiment l'expliquer. Et c'est un rapport, je trouve, humain qui est vachement beau, quoi. Qui est vachement beau quand tu te... Ou alors j'imagine comme voilà deux alpinistes qui sont éclairés d'une montagne et puis ils se sentent, voilà, ils ont pas le temps ni l'énergie de penser à des trucs ou de s'expliquer. Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ils sont entièrement dans l'action. Et ça, c'est beau dans la musique, c'est qu'on joue, on est perdu dans l'action, on est entièrement dans l'action, à 100%. Il n'y a aucune place pour la pensée, il y a juste que de la place pour toute la gamme vraiment très étendue, très souple de la relation humaine, de la façon qu'on a de sentir quelqu'un, quoi.
Et à vous tous, vous racontez une même histoire.
À
vous tous, vous racontez une même histoire. Vous créez un même climat, vous racontez une même histoire.
Bah oui, fatalement, on s'harmonise.
Parce que vous voulez raconter la même.
C'est vrai que ça m'arrive très très peu, mais les fois où si tu joues avec un musicien qui finalement tu t'harmonises pas avec lui, où c'est vraiment il y a un truc, c'est vraiment très très pénible du coup. Surtout qu'on connaît l'extase de jouer avec des musiciens avec qui on s'entend bien, avec qui on est vraiment accordé très finement sur les mêmes fréquences comme ça, mais intuitivement hein, ou par le travail évidemment on répète. Au début c'est pas terrible et plus on répète plus ça va, plus on se sent les uns les autres.
Nicolas Repac est toujours là.
Nicolas Repac, voilà, c'est quelqu'un de très important pour moi. Je trouve que c'est un grand musicien. C'est quelqu'un qui est complètement dans son instinct, dans sa sensibilité, dans son intuition, dans le fait de lâcher prise comme ça, de s'offrir à la musique. J'adore l'écouter jouer, j'adore le regarder. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'intérieur de la musique, quoi. Voilà.
Vous nous parliez tout à l'heure d'un voyage que vous avez fait avec Léonore. Vous l'appelez Léonore. Léonore Mercier, plasticienne sonore. Qu'est-ce qu'ensemble, vous essayez peut-être aussi d'inventer comme son? Vous aviez mis en place une technique acoustique il y a quelques années pour mettre en son justement les poèmes que vous aviez écrits dans un dôme tapissé d'enceinte à l'intérieur duquel s'installaient les spectateurs. Et vous parliez d'ambisonie.
Oui. L'ambisonie, tout simplement, c'est une technique de son. Voilà, c'est le son spatial. C'est le son qui circule partout. On est entouré par le son. C'est pas le son stéréophonique comme ça. Donc oui, avec Léonore, on a un couple utopique, un couple du futur. On voudrait inventer une nouvelle façon d'être dans les sons, dans les mots. Moi, je trouve qu'il y a tellement à faire, tellement à inventer, des nouvelles formes d'approche, des nouvelles façons d'être ensemble, des façons de se guérir par la musique, de se guérir par l'art, se dynamiser. Il y a tout à faire. En vrai, on est très très débutant. On n'est pas extrêmement avancé. Ça avance très vite et en même temps très lentement, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est assez important d'avoir un rêve très fort, qui est une étoile très lointaine. Pour un jour vivre une forme d'art qui soit beaucoup plus satisfaisante, quoi. Et qui soit pas de l'ordre de la consommation, de consommer de l'art, mais qui soit vraiment... l'art est censé vous transformer un petit peu, vous nourrir. Et c'est pas toujours le cas, parce qu'on est toujours à l'extérieur, voilà. Bon, c'est bien, il y a des formes qui sont ce qu'elles sont, mais je pense qu'il faudra inventer vraiment une forme d'art où tout le monde est au cœur des sons, des trucs, et tout le monde peut manipuler ça à sa propre manière. Et voilà, qu'il y a peut-être des artistes qui donnent le là, qui donnent comme ça une vibration ou une direction, mais qu'après tout le monde s'en empare. Je pense qu'un jour il y aura un art collectif qui sera fait comme ça à plusieurs, et qu'il y aura pas des consommateurs et des acteurs, il y aura plus cette hiérarchie là. Donc finalement, avec Léonore, en tant que couple d'amoureux et puis d'artistes aussi, on vit un petit peu ça d'une autre manière, quoi, très, très simple.
L'amour nourrit aussi beaucoup vos chansons. C'est un peu bête à dire. L'amour
oui,
nourrit votre
comme
travail.
Comme Tino Rossi.
Comme
Tino Rossi.
Nourrit oui. Votre création.
Bah oui, oui, fatalement. Étant en quête d'une forme de beauté... Il y a potentiellement beaucoup de beauté dans l'amour, même si c'est une force très perturbante qui peut aussi générer l'ennui, la tristesse, l'enfer aussi. C'est-à-dire que l'amour, c'est assez marrant, étonnant, parce que ça peut t'amener au meilleur de soi-même, se libérer, être complètement satisfait. Et après, le jour après, ça peut te détruire complètement, ça peut mourir à petit feu et t'emmener progressivement en enfer. Donc c'est, on peut pas dire que c'est une forme neutre, mais elle produit des effets tout à fait différents, quoi. Du coup, c'est un sujet de fiction, évidemment, indépassable.
Arthur H., on n'a pas parlé de la réception critique de votre travail, des victoires de la musique que vous avez obtenues. Est-ce que vous êtes sensible aux récompenses, aux prix ?
En vrai, pas vraiment quand même. C'est-à-dire que ça me fait plaisir sur le moment, mais c'est pas quand même très fondamental. Il n'y a pas vraiment de récompense. Une récompense, c'est toujours un truc qui disparaît parce que on est content sur le moment, mais le lendemain, on est frustré parce qu'on n'a pas eu l'autre récompense. Donc c'est pas vraiment un moteur. Je sais pas si parfois on est un peu satisfait, mais on peut être satisfait tout seul aussi. On n'a pas besoin forcément du regard des autres. Alors moi je pas parler trop de trucs vraiment qui me sont assez personnels, qui sont une espèce de frustration, tout ça, mais que je porte en moi, qui colore le monde, parce que toute notre je pense que notre univers émotionnel, c'est un filtre, c'est vraiment des yeux, c'est un regard à travers lequel on regarde, on perçoit le monde, et donc le monde est pas du tout objectif, enfin pour moi quoi, il est coloré vraiment très très fortement par nos émotions, et ce qu'on voit n'est pas du tout la réalité. C'est la réalité filtrée par nous, quoi.
Et donc, qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, ce que je vois, c'est... Franchement, ça m'intéresse pas trop d'en parler. C'est vrai que, là, ils m'ont fait écouter aujourd'hui un truc où ils disaient, oui, j'étais le vilain petit canard, qui a réintégré la mare, mais bon, c'est une image pas très intéressante. Donc, globalement, je me sens plutôt isolé en général, mais parfois je me sens aussi satisfait et compris, même si la plupart du temps je me vautre un peu dans le sentiment d'être incompris, d'être mais bon, c'est le cas de c'est un cas très banal, cher docteur.
Polydor ne vous a pas compris. Pourquoi votre collaboration s'est arrêtée ? Votre dernier album a été produit par Believe. Fin d'une collaboration qui durait depuis un moment.
Oui, c'était une fin assez sèche, assez directe. Ils m'ont remercié. Comme ça, c'est vrai que ce qui m'a fait bizarre. Moi, en vrai, j'avais envie de partir, donc j'étais content. Mais j'aurais préféré dire « Ah, bah, vous me voulez ? Ben non, je pars, regardez-moi. » Dans ma dignité outragée, malheureusement, ils m'ont viré avant que j'ai eu l'occasion de leur dire que je voulais partir. Mais donc c'était pas très grave, parce que voilà, la vie, c'est aussi des choses qui meurent, c'est aussi des séparations pour pouvoir renaître et puis recréer des nouvelles histoires. Ça n'est que ça, la vie, en vrai. On a beau être pour ou contre, c'est qu'il y a un moment où une relation va s'arrêter et puis une autre va commencer, quoi. Après, j'étais un peu triste dans le sens où c'était toute une partie de la vie, de ma vie, en tout cas musicale, artistique, amicale, qui n'a pas du tout été célébrée, quoi. Alors j'imagine que c'est vraiment pire pour les gens qui travaillent dans des boîtes pendant 20 ans, puis un jour il y a un coup de téléphone ou même pas, on dit tiens, tu prends tes affaires. On m'a raconté des histoires comme ça. Dans les maisons de disques, d'ailleurs, ça se pratique beaucoup. Les gens sont beaucoup virés en général. Donc tu vas au boulot le matin et puis on dit tiens, il y a le directeur qui voudrait te dire un mot. Tu vas ah bon, OK, d'accord, tout se passe bien, tout est normal. Bah monsieur, vous êtes madame vous êtes viré quoi. Donc vous prenez vos affaires, vous partez. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de l'ordre du choc. Donc moi c'était par téléphone, donc ça allait. J'aurais juste aimé qu'on célèbre un peu tout ce qu'on a échangé à un moment pendant un certain temps. Et là, c'était juste, voilà, une porte se ferme, point à la ligne. Alors, ceci dit, j'étais très content de retrouver des gens de Believe, donc qui est une maison de disques qui a commencé par le digital, donc une maison de disques d'aujourd'hui, avec un vrai amour de la musique, en tout cas, un enthousiasme, une fraîcheur, quelque chose de très agréable. Et puis, voilà, depuis de recommencer une histoire à zéro, c'est toujours au début, en tout cas, c'est bien.
Un mouvement perpétuel, c'était le titre du coffret de vos 18 premiers disques en 2015, album studio ou album live, 25 ans après votre tout premier album. Et donc vous l'avez appelé le mouvement perpétuel, histoire de nous dire que vous ne vous arrêterez jamais.
Oui, tout à fait. Oui. Je crois au pouvoir des mots qu'on emploie sur soi-même. les mots sont extrêmement puissants, ils nous définissent. Quand on se dit « je suis comme ci, je suis comme ça, je fais ci, je fais ça », bah ça définit une réalité. Donc moi, j'ai compris ça il y a quelques années, et du coup, comme j'ai la chance d'être poète et de chanter, bah je construis ma vie en décidant de mots généralement positifs que je donne à ma propre vie, à ma propre direction. Donc mouvement perpétuel, voilà, finalement c'était la fin d'une histoire, j'aurais pu l'appeler fin d'une histoire par exemple, mais mouvement perpétuel pour moi, ça c'est la nature, c'est les êtres humains, c'est ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de machine infernale qui ne s'arrête jamais, qui est toujours en train de se transformer, changeante, avec toujours la possibilité d'avoir accès à des nouvelles informations, à quelque chose qui peut nous sortir de nos impasses. Toujours cette possibilité-là, ce mouvement qui nous habite, qui est beaucoup plus fort que nous, individuellement. Voilà, ce mouvement de la vie qui nous traverse et auquel moi j'ai envie de m'identifier. J'ai envie de m'identifier à des choses plus grandes que moi. Parce que je suis limité, je suis petit, je suis pas spécialement intéressant. Donc j'ai plutôt intérêt à me mettre dans un mouvement qui me dépasse, quoi.
Pour conclure, Arthur H., est-ce que vous voyez un chemin se dessiner d'un album à l'autre et que vous allez poursuivre dans les années qui viennent ?
Y a sûrement un chemin qui existe, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la création du chemin. Ça s'appelle la vie, quoi, parce que c'est pas créer une œuvre, faire une œuvre pour quand je serai mort. C'est une possibilité d'exploration de soi, de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de le sortir, de le partager, de le célébrer, de le fait que ce tout ce qu'on invente, tout ce qu'on cherche, tout ça nous construit aussi de manière invisible et très puissante. Voilà, c'est quand même quelque part un émerveillement du chemin, quoi. Donc, mais le chemin, il est toujours devant. C'est vrai qu'on n'a pas souvent besoin de se retourner quand. Si tu vas à un point Z, tu marches. On est fait pour marcher devant. Donc c'est plutôt à l'exploration de ces nouveaux paysages qui vont fatalement apparaître devant moi. Quoi.
Merci beaucoup, merci. Arthur H.
Merci. Merci.
C'était la masterclass d'Arthur H. avec Julie Gacon. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Shushan Jergaillant.